Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
Stéphane Carpentier.
Et à mes côtés, Agnès Bonfillon pour toute l'actualité du dimanche. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
L'actualité, ce sont ces rassemblements prévus ce dimanche un peu partout en France.
Place de la République à Paris, mais aussi dans d'autres villes, avec à chaque fois cette même émotion et volonté de rendre hommage à Samuel Paty, assassiné vendredi à la sortie du collège où il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine. Alors que 10 personnes se trouvent toujours en garde à vue ce matin, les enquêteurs tentent de comprendre comment l'adolescent de 18 ans, habitant Évreux, est arrivé dans les Yvelines avant-hier alors qu'il n'avait aucun lien avec ce collège, cet enseignant. Ce jeune d'origine tchétchène né à Moscou n'était pas connu des services de renseignement, mais de la justice, oui. Par ailleurs, son comportement, selon ses voisins, aurait dû alerter Julien Caillard.
Oui, dans ce quartier de la Madeleine, les enseignants qui ont connu l'assaillant sont sidérés. Comment lui et sa famille ont-ils pu passer entre les mailles du filet, s'interroge l'un d'eux, qui poursuit. Petit déjà, le garçon était effrayant. Son agenda était truffé d'écrits, de symboles religieux. Et lui était tout aussi fermé que ses parents. Son père refusait de s'adresser aux femmes. Sa mère, elle, presque entièrement voilée, n'avait carrément pas le droit de parler. Et surtout pas aux hommes. Un repli des attitudes que confirme l'une des anciennes camarades de classe de l'assaillant. Elle était avec lui au collège.
Comme je vous disais, il parle pas avec les filles de base. Au collège, il était souvent avec les garçons, quoi. Je le voyais jamais avec des filles ou parler avec des filles.
Ce portrait, la communauté tchétchène du quartier, elle ne la reprend pas à son compte. Non, l'assaillant n'était pas radicalisé, assure l'un des membres de cette communauté, qui présente le jeune homme comme discret, inséré et d'ailleurs sur le point de passer son permis pour travailler. Cette communauté tchétchène qui n'explique pas cet acte qu'elle juge ignoble. Et lâche.
L'enquête de Julien Caillard à Évreux pour RTL. Parmi les personnes qui sont en garde à vue, les parents du meurtrier, le père d'élève qui avait appelé à la mobilisation contre l'enseignant après le cours d'éducation civique où des caricatures de Mahomet servaient de support pédagogique. Un militant islamiste est également interrogé par les enquêteurs qui cherchent à savoir si l'assaillant a agi seul ou non. C'est une véritable onde de choc dans le pays depuis cet attentat vendredi. Plusieurs rassemblements, on le disait, sont prévus cet après-midi, dont un dans la capitale, place de la République, Armelle Lévy.
Oui, en fait, cet appel a été initié par les syndicats d'enseignants, les fédérations de parents d'élèves, les organisations lycéennes et l'association Dessine et Créer Liberté de Charlie Hebdo et SOS Racisme. Cet appel est un hommage aux professeurs assassinés, mais aussi un appel à défendre la liberté d'expression, la liberté de conscience, la laïcité, la démocratie et la République attaquée. S'en prendre à un enseignant pour la mission qu'il exerce, disent-ils, c'est s'en prendre à l'école. Et pour que l'école continue et que les enseignants aient confiance, ils ont besoin de se sentir unis, d'être tous ensemble et soutenus par la nation tout entière. Et c'est justement pour afficher son soutien et le soutien indéfectible de l'État à la République que le ministre de l'Éducation nationale a prévenu qu'il sera également présent cet après-midi en veillant au strict respect des règles sanitaires.
Merci Armelle Lévy. Dès hier, spontanément, Agnès, des milliers de personnes se sont rassemblées un peu partout en France.
Devant le collège de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, bien sûr, mais aussi dans de très nombreuses autres villes. Souvent, les enseignants ont eu besoin de se retrouver. Exemple à Nancy, Doris Henry.
Aux armes, citoyens.
Une Marseillaise entonnée sous les masques et des applaudissements pour un hommage ému. Étienne, prof d'histoire géo, avait besoin d'être là.
Ça aurait pu m'arriver aussi. J'ai déjà projeté ces fameuses caricatures en les expliquant. J'ai pas pris les mêmes précautions que notre collègue qui a été assassiné. Je n'ai jamais dit, vous pouvez sortir, fermer les yeux, etc.
Et il sait déjà comment il abordera le sujet avec ses élèves à la rentrée.
J'enseigne également cette fameuse option histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Donc on va faire une étude de cas sur la religion, son impact.
Parmi les 300 personnes rassemblées, beaucoup d'autres enseignants et encadrants sidérés, dont Annick et Thierry.
La révolte, le fait qu'un enseignant dans l'exercice de ses plus simples missions puisse être assassiné, la colère.
Au-delà de la transmission de connaissances, c'est surtout la fabrique à citoyens. C'est comme ça que j'envisage les choses par rapport au travail exercé. Et c'est comment on rend une ouverture d'esprit aux élèves par rapport à la différence.
Et d'autres rassemblements sont prévus en Lorraine cet après-midi, notamment à Metz et à Épinal.
Le reportage de Doris Henry pour RTL. Mercredi, c'est un hommage national qui est prévu. On ne sait pas encore où celui-ci aura lieu. Sachez que dans quelques instants, un conseil de défense doit débuter à l'Élysée. Dans le journal du dimanche, le Premier ministre Jean Castex indique travailler, je cite, à une stratégie de riposte encore plus ferme. plus rapide et plus efficace quand un enseignant subit des menaces.
9h05 en ce dimanche matin, vous restez bien là, la suite du journal d'Agnès Bonfillon. Après ceci, les vacances de la Toussaint à l'heure du couvre-feu et pour certains, les restrictions arrivent au mauvais moment. On vous explique après ça.
RTL Matin. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon, la suite du journal, il va falloir s'y faire depuis hier 21h. Interdiction d'être à l'extérieur jusqu'à 6h du matin.
Un couvre-feu qui concerne la région Île-de-France ainsi que 8 métropoles. Objectif, enrayer l'épidémie de coronavirus. Cette contrainte supplémentaire qui s'applique à près de 20 millions de Français coïncide avec le début des vacances de la Toussaint. Dans la métropole rouennaise, c'est la déception, Frédéric Veil.
C'est les vacances, mais à Rouen, c'est aussi le couvre-feu. Et pour Olivier, qui comptait bien profiter de la première semaine, c'est...
Très contraignant. Surtout dans cette période de vacances, tout ça. La vie déjà triste, et là, on a un coup de masse, en plus, sur le dos.
Alors, beaucoup comme Ludovic vont faire avec ce couvre-feu.
Oui, on n'a pas le choix. Mais après, on est en guerre contre un virus.
Un virus qui circule beaucoup ici dans la métropole rouennaise. Voilà pourquoi Virginie et ses enfants vont se plier au couvre-feu imposé pendant les vacances.
Ça tombe mal. Après, si ça permet d'éviter plus de personnes infectées, bon bah tant mieux. C'est sûr qu'il faut penser aux hôpitaux, mais je pense que peut-être que ces mesures, elles arrivent un peu tard.
Des mesures drastiques voire incompréhensibles pour une majeure partie des jeunes. Bilal est lycéen.
Toutes les semaines au lycée, il y en a, ils peuvent pas sortir le soir après les cours parce qu'il y a cours. Pendant les vacances, on met couvre-feu. Ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas le droit de sortir après 21h. En mode le corona, il est là, sauf qu'on ne peut pas sortir avec trois potes après 21h, mais on peut être 500 dans un lycée à la cantine collé, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça va nous gâcher nos vacances.
Exactement, exactement.
Et même au-delà, puisque le couvre-feu est instauré 4 semaines minimum.
Le reportage de Frédéric Veil pour RTL. Nouvelle mesure pour tenter d'enrayer l'épidémie, alors qu'un nouveau record a été atteint. 32 000 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures.
Les sports, ils craignent des gains. Ça veut dire qu'ils craignent rien. Surtout pas les Girondins, on parle football.
Et ils ne craignent personne en 7e journée de Ligue 1, l'OM s'est imposé 3-1 face à Bordeaux, ce qui permet aux Marseillais de se replacer à la 5e place du classement. Victoire de Lorient à Reims également, sur le même score, 3-1. Et ce soir à 21h, Lille-Lens, ce sera l'affiche du match à suivre dans RTL Foot.
Côté télé, Agnès, la crise sanitaire à Bondo, le nouveau diffuseur Mediapro s'attire les foudres des fans de ballon rond.
Et oui, le groupe sino-espagnol estime qu'il n'a pas les moyens de verser les droits télévisés prévus. La faute au Covid. La Ligue de foot professionnelle ne n'entend pas du tout de cette oreille. Pas question de renégocier le contrat. Et comme le prouve le baromètre Sport Odoxa cette semaine, Philippe Sanfourche, la LFP peut compter sur le soutien des Français.
Et confirmation que les Français ne sont pas prêts à tout pour regarder du football à la télévision. Ils continuent pour 30% à l'apprécier en clair, mais ne sont que 13% à être abonnés à au moins une chaîne payante. Chiffre qui descend à 5% pour les multi-abonnés. Une frange de passionnés qui représente environ 2,5 millions de personnes pour désormais 4 diffuseurs payants de football, dont le nouvel entrant Mediapro. Beaucoup d'acteurs donc pour un marché limité. Et quand on interroge les Français sur le montant acceptable de dépenses par mois, ils le situent à 20 € en moyenne, soit 5 € de moins que l'offre du seul Mediapro. Des résultats qui confirment la fragilité du modèle économique du nouveau diffuseur de la Ligue 1, peu soutenu dans son combat par les sondés qui estiment à 60% que la Ligue de football professionnel ne doit pas renégocier son contrat. Moins inflexibles, les fans de football manifestent surtout leur inquiétude. Ils sont 63% à craindre pour l'avenir du football français.
Philippe Sanfourche pour RTL. En rugby, encore raté. Nouvelle défaite du Racing 92 en finale de Coupe d'Europe. Les Franciliens ont été battus 31-27 par les Britanniques d'Exeter. En championnat du monde moto, il décroche la pole position malgré une très grosse chute. Le Français Fabio Quartararo s'élancera en tête du Grand Prix d'Aragon en Espagne cet après-midi.
Et puis pourquoi attendre les vacances de Noël pour aller skier? Ben ça marche aussi à la Toussaint.
Eh oui, Saint-Glacier accueille les plus chanceux depuis hier. La station des Deux Alpes en fait partie. C'est une première depuis 4 ans. C'est donc du touchous, Serge Puyot, sachant que même au grand air, il faut faire avec les consignes sanitaires.
Dans la télécabine qui monte au glacier des Deux Alpes, tout le monde doit être masqué. Delphine vient de Lyon.
Ça fait un peu bizarre, mais bon, avec le temps, on commence à s'habituer. On porte le masque tout le temps dans la rue, dans les transports, dans les télécabines. Et puis bon, ça fait super plaisir d'aller skier, donc on est content.
À 3600 mètres d'altitude, la neige fraîche est au rendez-vous. Les amateurs de glisse qui viennent de toute la France sont aux anges.
Là, la neige, elle est très fraîche. On avait envie de la manger. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai sauté dans la neige tellement que ça manquait.
Tracer le pied, c'est magnifique. Il fait beau, la neige est bonne. C'est grandiose.
C'est le top. On est vraiment heureux d'être ici. Ça enlève un peu de morosité à cette vie un petit peu fade en bas. Là. Quand on monte dans les montagnes, on s'évade. Le Covid, on porte le masque, on fait attention. Et puis voilà.
Mila, 8 ans, a un peu plus de mal à supporter son masque.
J'arrive pas trop à respirer dans le masque. On sent pas l'air libre de la nature et moi j'aime bien sentir l'odeur de la nature, de la montagne.
Sur les pistes, Pierre, lui, oublie complètement le coronavirus.
On skie comme des petits fous. On oublie tout, on se vide la tête et la tête droite dans le pentu. Ah, tout chou, c'est tout droit quoi.
La tête droite dans le pontu. Le reportage de Serge Pléau des Alpes pour RTL.
Merci Agnès. Les courses aujourd'hui, le rendez-vous c'est Auteuil pour le Quintet pronostic.